La question de Yaakov.
Et quel conseil avez-vous pour le Shalom Bayit?
Shalom Bayit, s'écraser. Ça, c'est, j'ai tout dit. Mais je vais quand même expliquer un peu plus, on en fera un cours, Be'at Hashem. Le but du mariage. La Torah, dans Bereshit, nous raconte comment le monde a été créé. C'est pas pour rien. Des enseignements. On voit là-bas que l'homme, qui est quand même le but le plus grand de toute la création, pour lequel la création a été faite, était créé, Adam a été créé en homme-femme. Le Gemara dans les Rouvines dit d'où part son film, il avait deux visages. D'un côté un homme, de l'autre côté une femme. Dieu dit Lotov heyot Adam levado, eselo eser kenegdo. Ce n'est pas bien que l'homme, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, sans nuire de mots, pourrait-on croire. Je vais lui faire maintenant une aide en face de lui. Et Dieu endort l'homme, l'en retire, pas la côte, mais le côté. Tsela signifie côte, mais signifie aussi côté. On voit Tsela Mishkan, le côté du Mishkan. Il lui en sort le côté intérieur. Pour entrer dans le détail, pourquoi c'est quoi l'intérieur, c'est quoi l'extérieur, le côté intérieur. Et on fait la femme. Et nous, on ne comprend pas. Tu me dis, c'était pas bon. C'était très, 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 très bon. Quand l'homme et la femme étaient collés ensemble, ben, tout allait très bien. Shalom Bayit, génial. Tu n'as jamais vu ton œil gauche être fâché contre l'œil droit. Ou ton bras gauche qui s'énerve contre le bras droit. On était un seul corps. Tout allait très bien. Même s'il y a un désaccord, elle voulait aller au cinéma, moi je voulais aller au théâtre. Ben, dans la tête, ça s'arrangeait bien. Comme aujourd'hui, tu peux voir peut-être des fois tu hésites, les pieds ont mal, mais les mains moins. Alors on s'arrange, c'est pas que ce qui se passe dans les couples actuellement, à l'histoire. Alors pourquoi Dieu dit que ce n'est pas bon? Au contraire, c'est très très bon. On était homme-femme, tout va très bien. Le Ramban pose la question, Nachmanide, et dit ne crois pas que Dieu a fait cela pour qu'on puisse se reproduire. Car le premier homme-femme qui existait, Adam, avait des organes de reproduction internes et pouvait se reproduire aussi, en étant unique. Alors il est clair que nous parlons maintenant des fondements du monde. Pourquoi ? On voit que dans toute l'humanité aujourd'hui, dans toute l'humanité, dans toute la nature, la plupart des animaux, il y a certains qui peuvent se reproduire seuls, mais on peut dire en gros aussi dans les mondes métaphysiques, tout est géré en masculin féminin. Dans le temple, dans le Saint des Saints, il y avait les deux chérubins, et il est écrit dans la Gemara de Yoma que quand Bnei Israël venait monter trois fois par année, alors on ouvrait le rideau du Saint des Saints et on montrait l'amour qu'avait Dieu pour Am Israël, comment c'était exprimé, on voyait les chérubins mâles-femelles en situation d'intimité conjugale dans le sein des saints. Donc c'est pas qu'une petite histoire comme ça, ça veut dire que ça correspond à la réalité physique et métaphysique. La mystique juive dit que lorsqu'il y a de l'intimité conjugale entre masculin et féminin dans le ciel, ça amène le flux sur terre. Donc il y a ici, Dieu a voulu séparer, qui est homme-femme, et une possibilité d'union. Cette possibilité d'union, elle amène beaucoup de désunion aujourd'hui. Alors quel est le but? Ça c'est, on va dire, les fondements, j'ai expliqué en gros que c'est comme ça. Mais pratiquement, pourquoi Dieu fait ça? Alors c'est marqué dans le texte. Lo tov, ce n'est pas bon. L'homme, s'il était resté un homme-femme, il aurait été quand même un monsieur non marié qui n'a pas de limite. L'être humain, quand il va naître, il reçoit un ego. Et cet ego est extrêmement développé. Les parents vont essayer de l'éduquer. Bon, plus ou moins on arrive à l'éduquer, mais ça reste très très faible comme éducation. Tu vois un bébé très mal éduqué. Fais pas attention parce qu'il est mignon. Et c'est un bébé. Alors fais pas attention, mais il voit un biberon sympa chez l'autre, il le pousse, il le prend. Une petite voiture sympathique, il répond, c'est à moi. Parce qu'on lui reprend, non, t'as volé, il se met à pleurer. Il n'y a pas l'autre, il y a moi. Et nous avons tous ce petit enfant en nous qui dit toute la journée, moi, 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 moi. Mais quand tu dis moi, 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 tu peux pas vivre avec quelqu'un, c'est impossible. T'es un animal. T'as des animaux qui sont très bien éduqués, avec col blanc et cravate, et un PDG, c'est un animal. Mais bon, il a l'air civilisé, mais c'est moi, 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 surtout un PDG. J'ai rien contre le PDG, mais quelqu'un qui a une situation qui renforce son ego, il faut pas lui faire guili-guili. Trop. Guili-guili, ça va, mais quand tu marches sur la cloque, ça va plus du tout. Or, Dieu veut au contraire qu'on soit à son image. Ça veut dire donneur. L'ego, il est preneur. Moi, ça veut dire moi, vers moi. Dieu, il est donneur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut qu'on devienne bon. Bon, c'est donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ma moitié, la mettre en face de moi, et elle a besoin que je lui donne. Et moi, j'ai besoin qu'elle me donne. C'est un besoin vital. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'estime, j'ai besoin de gentillesse, j'ai besoin d'amour. J'ai des besoins. Et si l'autre ne me donne pas ses besoins, c'est terrible. Je me mets à hurler. Donc, ça va être une école, en fait, un apprentissage. Le couple, le vrai but, comme je dis, c'est apprendre à s'écraser, à écraser l'ego. C'est-à-dire que si je ne vais pas commencer à apprendre à être un donneur, à m'écraser et à donner, et à être à l'écoute de l'autre, et de ce dont il a besoin, et pérer dans ce sens, ça n'ira pas. L'autre ne recevra pas ce dont il a besoin. Et moi, j'ai besoin aussi qu'elle m'écoute. Tout ce que je dis maintenant, c'est vice-versa, homme-femme. Moi aussi, j'ai des besoins, donc elle devra faire des efforts aussi pour me donner. Le couple idéal tel que Dieu l'entend, c'est que chacun des conjoints va être affairé toute la journée à voir comment il peut plus donner à son conjoint. Son ego, rien. Alors, il est vrai que j'ai des besoins. Et comme j'ai dit, il faut que mon conjoint me donne mes besoins. Il faut arriver à un équilibre où, qu'est-ce qui se passe? Si les deux ont un ego qui est développé, ils vont dire, tu ne me donnes pas assez, je te donne trop. Qu'est-ce qu'on entend dans les couples qui ne vont pas? Je fais tout pour mon mari, je ne reçois rien. Le mari dit, mais c'est complètement folle, je fais tout pour elle. Je fais tout pour elle, et c'est moi qui ne reçois rien. Chacun a l'impression qu'il donne énormément. Il a un ego tellement grand que tout ce qu'on lui donne est insuffisant. Et quand il fait l'effort incommensurable, divin, extrêmement grand, absolu et solennel de donner quelque chose à son prochain, c'est extraordinaire. On arrive à des grands problèmes. La Torah dit au contraire, écrase-toi. Écrase-toi. Et là vient le travail principal de l'être humain sur Terre. Devenir bon, c'est de travailler les midot. Les midot. Les midot, ce sont les traits de caractère. Dont la racine des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère, c'est l'ego. La gaava en hébreu. C'est pour ça que la plus grande qualité est l'humilité. À quelqu'un qui est humble, tu peux lui marcher dessus tant que tu veux, tu peux lui faire rien. Il est aimé. Moshe Rabbeinu, qui était le plus parfait qu'il y avait sur terre, a été vanté d'être, c'est le verset dit, Vaïch Moshe, anav mikol adam asher alpne adama. L'homme Moïse est l'homme le plus humble qu'il y a sur la surface de la terre. C'est de ça qu'il a été. Par cela qu'il a été loué et vanté. Pas qu'il était le plus grand prophète, ce qu'il était. Pas qu'il était un dirigeant hors pair. Pas qu'il était un stratège fantastique qui a fait des guerres extraordinaires, qui a réussi. Pas un faiseur de miracles, pas un sadique. Pas... Humble. Ça, c'est la clé du mariage. L'humilité, j'ai l'habitude de dire, Zichrona Yevracha, de mémoire bénie. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est très très rare. Mais le but du mariage, c'est arriver à travailler son orgueil, à baisser la tête et accepter qu'on a tort. Accepter d'aller dans le sens de l'autre, baisser le nez, baisser le front, baisser le caquet, d'accord? Et accepter. Et c'est un travail énorme. Si un couple va aller dans ce sens-là, ça ira comme sur des roulettes. La vie en rose, rien de plus beau que de donner à son conjoint, et l'autre qui donne aussi le respect, la compréhension, accepter ses torts. Personne n'est parfait, chacun a des torts. On n'aime pas entendre, on n'aime pas entendre qu'on a tort. Ça touche notre ego. Et quand je suis à l'yeshiva, ou au travail, aux études, j'ai presque jamais tort. Et si quelqu'un me dit trop que j'ai tort, alors ou bien je lui fais une grimace, ou pire, ou je coupe contact. Et même si maintenant c'est quelqu'un de très proche de moi, ok, il y a proche, c'est proche. Lui est plus proche de moi ou ma femme est plus proche de moi, ma femme. Donc même quand ça ne va pas avec quelqu'un, les remarques qu'il va me faire, ça reste assez léger, pas trop grave, pas trop compromettant. Avec ça, ta femme, tu fais un. Tu es très très vulnérable. Tu es complètement ouvert. Donc c'est extrêmement, il y a une sensibilité très grande, hypersensibilité. Plus le couple est proche, plus il devient hypersensible. Et il doit être proche. Donc chaque petit bémol, tu n'as pas dit bonjour en souriant. Tu rentres dans ta chambre, là, tu n'es pas rentré en souriant. Tu n'as pas dit bonjour en souriant, c'est pas... tu rentres à la maison sans sourire. Ben, ta femme peut pleurer 2 heures. Et ça fait partie des conseils qu'on donne au Khatanim. Les premières minutes qu'on est à la maison sont cruciales, cruciales. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant trop des... Bon, il y a aussi toutes sortes de choses à savoir sur le terrain, d'accord.
Allez-y.
On va en parler, mais attends, maintenant je fais plutôt en théorie, d'accord. Quand on rentre à la maison, il y a une certaine période qui peut aller jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure de se mettre en phase. Elle a eu sa journée, tu as eu ta journée, chacun vient avec toute attention qu'il a eue. Et à ces moments-là, la non-communication intelligente, d'accord, elle peut faire des malheurs terribles. C'est très important de... Tu rentres à la maison, tu regardes si tout va bien, un truc qui ne va pas, tu ouvres la soirée avec une remarque. Et c'est un remarque, comme je dis, c'est un bémol, ça fait mal. Alors la personne en face, elle est douée de beaucoup de ça veut la nôtre, comme on dit ça, de patience, d'humilité, elle accepte. Mais, comme j'ai dit, quand t'es copain, tu fais une remarque une fois par jour, à tout casser, dans une chambre. Sinon, le type, il a dit, ça va, d'accord, c'est fini. À la maison, dans une soirée normale, il y a bien 50 remarques à faire. Au moins. Ça veut dire que le couple, il est mort. Pourquoi? Parce que bien que je sois humble, et que je vais accepter tout ce qu'on me dit, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Le conjoint est devenu une sorte de prof, d'accord, qui me fait des remarques sans cesse en me donnant des mauvaises notes. Il me dit, chérie, ça serait bien que la prochaine fois tu fasses comme ça. C'est gentil, mais ça veut dire une mauvaise note. T'as raté. T'as raté, t'as raté, t'as raté, t'as raté, t'as raté. Et c'est courant dans un couple. Donc d'abord, il faut beaucoup d'humilité pour que ça puisse déjà passer plus facilement. Ensuite, il faut éviter de faire des remarques. Au contraire, enfin, une chose qui est très difficile pour les gens orgueilleux, et surtout pour les gens qui sont pas orgueilleux, qui n'ont pas vu ça chez leurs parents, parce qu'on a une tendance naturelle, bête, et c'est comme ça, de réitérer les comportements tordus qu'on a vus chez nos parents, bien qu'on sache que c'est pas bien. C'est comme ça. Dans beaucoup de couples, surtout chez les Sfaradim, on ne dit pas des mots d'amour, on ne dit pas des mots d'estime. Très rare. C'est comme ça à l'ancienne, d'accord. T'as le monsieur, t'as la dame servile. Et c'est comme ça. Et quand ça ne va pas, d'accord, il fait une remarque. Quand tout va bien, on ne dit rien. C'est exactement le contraire. Aujourd'hui, il faut agir comme ça. Quand tout va bien, il faut le dire, le redire, le répéter. Vas-y, tu tartines. Même si la femme, tout ce que je dis, c'est dans les deux sens, sait que tu tartines, ça fait plaisir. J'avais dans mon bureau un couple il y a peut-être 20 ans. L'homme était absolument incapable de dire un compliment sur sa femme. Ou un mot d'amour, une gentillesse, un mot d'amour, compliment, mot d'estime, d'accord ? Et on appelle ça des mots positifs. Incapable. Je reçois les deux. Je lui dis, tu vas te forcer, tu peux. Dis-moi maintenant, force-toi à dire un truc. C'est très dur pour lui. Bon. Elle est gentille. Mais il fallait ramer pendant 10 minutes pour qu'il sorte, d'accord ? Mais il me dit, mais elle sait très bien. Quand je dis ça comme un son de cloche, c'est complètement... c'est rien, c'est artificiel. Madame, est-ce que vous préférez qu'il vous dise des choses artificielles ou pas? Elle dit, je préfère artificielles.